Il est 18h30 à Paris, 17h30 en temps universel, l'heure du débat du soir avec Romain Ozouy. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique, et dans ce débat on va parler de la transition écologique, ou plutôt de ce qu'il en reste.
Le débat du jour. Romain Ozouy.
Eh oui, car l'environnement semble être le grand oublié des politiques publiques actuellement. On va citer en premier lieu évidemment les États-Unis, où le président Donald Trump prend un soin tout particulier à reculer sur la question climatique, retrait de l'accord de Paris, multiplication des décisions en faveur des énergies fossiles. L'Europe, de son côté, n'est pas en reste, en témoigne la directive Omnibus, qui est considérée comme un détricotage de l'ambitieux plan vert. D'où notre question ce soir, est-ce qu'on peut encore parler de transition écologique? Surtout alors que l'Europe s'apprête à faire un effort financier inédit en termes de défense. Est-ce que l'environnement est devenu la variable d'ajustement des dépenses publiques? Et quelles conséquences? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Lucille Schmitz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, cofondatrice du think tank La Fabrique écologique, face à vous Anne Bringo, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice des programmes au réseau Action Climat, et Hervé Kempf, et notre troisième invité, est en ligne avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction Reporter, média de l'écologie, et co-auteur de cette bande dessinée « Comment les riches ravagent la planète ». Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Lucille Schmitz, pour poser le débat. Quels sont les objectifs environnementaux aujourd'hui? Est-ce que la ligne directrice, est-ce que le mantra, je dirais, c'est toujours les 1,5, la hausse du réchauffement de la planète, 1,5 degré d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça doit évoluer?
Non, je ne vais pas dire que ça doit changer. Je pense qu'il faut évidemment tenir l'ambition. Après, ce qui se passe, c'est qu'en termes de réchauffement objectif, beaucoup de scientifiques, de chercheurs disent aujourd'hui qu'il sera impossible d'ici 2100 de rester à 1,5 degré de réchauffement, parce que en plus c'est une moyenne. Donc vous savez qu'aujourd'hui le gouvernement a un plan d'adaptation de la France au dérèglement climatique qui se situe autour de 4 degrés. Donc il faut d'abord répéter que c'est pas 1,5 degré pour la France, et qu'aujourd'hui on réfléchit sur des hypothèses à 4 degrés. Et ensuite, évidemment, il faut réaffirmer cette ambition et dire qu'il est possible d'être en dessous de 2 degrés, mais que dans la manière de faire des gouvernements, dans la manière de donner, effectivement, comme vous le disiez, à l'écologie, la position de variable, non pas seulement d'ajustement, mais aussi, je dirais que dans le discours, par exemple, du Premier ministre François Bayrou, la façon d'avoir attaqué les agents de l'Office français de la biodiversité, la façon d'avoir parlé d'une remise au pas de l'Agence nationale sur la sécurité sanitaire, c'est une façon d'attaquer des agents publics, des agents de l'État qui aujourd'hui œuvrent pour l'écologie et pour la santé publique. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui se passe en termes... On est au-delà de la question du respect de l'accord de Paris. On est en train de dire qu'au fond, l'écologie peut être quelque chose de nuisible par rapport à d'autres enjeux. Et ça, c'est inédit, me semble-t-il, depuis 2015.
Vous évoquez la France, mais ce qui se passe aux États-Unis n'est pas plus grave?
Écoutez, moi, d'abord, je suis française, donc excusez-moi, ce n'est pas cocorico, mais en tout cas, je me situe dans un pays dans lequel je vote et dans lequel j'attends effectivement un discours offensif contre la politique de Trump. Mais on ne peut pas à la fois être offensif contre Trump sur le plan des droits commerciaux, de la question de sa position par rapport à l'OTAN, et par ailleurs, au fond, être dans une sorte de suivisme un peu modéré par rapport à la façon dont il fait de l'environnement un bouc émissaire.
Tout est dit, il y a eu un plan d'adaptation à 4 degrés. Honnêtement, vous ne pensez pas que ça veut dire que les dirigeants ont oublié l'objectif des 1,5? Il est enterré?
Je ne sais pas s'ils l'ont oublié. Je ne sais pas d'abord s'ils l'ont tout simplement compris au départ. Je pense que le sujet, c'est aussi que nos dirigeants ne font pas l'effort nécessaire pour comprendre de quoi ils retournent, ce qui nous menace et ce qui est déjà en cours d'ailleurs en termes d'adaptation et de difficultés en France sur le plan social et économique. Donc je crois qu'il y a tout simplement une sorte de négligence coupable en termes de savoir, en termes démocratiques et aussi en termes de montée des inégalités, parce que les inégalités sociales et environnementales sont couplées.
Hervé Kempf, vous qui êtes directeur de la rédaction du média de l'écologie Reporter, vous observez justement ces discours qu'évoque Lucille Schmitt sur l'environnement. À quel point ils ont évolué? Encore une fois, l'écologie punitive, ce terme cité par les politiques de plus en plus, selon vous?
Non, je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte politique.
Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a des gouvernements qui ont fait le choix d'aller vers de plus en plus vers l'extrême droite en fait. Et on est dans cette situation pour ne pas prononcer le mot de fascisme. Et donc il y a un alignement de la politique des classes dirigeantes qui veulent à tout prix maintenir un système productiviste profondément inégalitaire et où la technologie serait vouée à résoudre tous les problèmes en laissant totalement de côté de l'écologie. Donc on est en fait, c'est pas une question de négligence, de manque de connaissances ou de compréhension des problèmes, c'est un choix politique malheureusement délibéré qui est extrêmement dramatique. Donc ce qui est punitif en fait, c'est la politique que ces gens-là mènent, qui est contraire à la démocratie, on le voit de plus en plus nettement, qui est contraire à l'intérêt futur et même quasiment immédiat des générations, de la société. Donc je pense que c'est dans une analyse politique qu'il faut hélas se situer.
Et cet alignement que vous évoquez, c'est celui qu'on retrouve aux États-Unis également ?
Ah ben, les États-Unis ont donné un fantastique coup d'accélérateur. Hein. C'est pas seulement la logique d'extrême droite était très visible dans tous les pays, quasiment dans tous les pays européens, avec des nuances, à quelques exceptions près, comme au Portugal ou en Espagne. Mais on l'a ressenti, y compris en France, avec la poussée extrêmement forte du Rassemblement national, qui a un discours quasiment climato-sceptique et très offensif à l'égard de toute mesure écologique. Ce qui est clair, c'est que la puissance et la radicalité de l'actuelle classe dirigeante américaine donne un coup d'accélérateur en quelque sorte à toutes les logiques d'extrême droite et anti-écologistes qui sont en présence.
Et évidemment, le politique influence l'évolution écologique. Anne Bringaud, je reviens sur ce plan d'adaptation à plus 4 degrés. Qu'est-ce qui vous inspire ? Encore une fois, vous êtes engagée, vous, en faveur du climat ? Vous êtes directrice des programmes au réseau Action Climat ?
Moi, je pense qu'il faut rappeler déjà ce que veut dire 1,5 degré. La différence entre 1,5 degré au niveau mondial et 2 degrés, ce sont des États insulaires dans le Pacifique qui sont submergés, donc des pays qui vont ne plus exister. C'est des dizaines de millions de personnes qui vont souffrir de la faim, des personnes supplémentaires par rapport à 1,5 degré. Donc ce n'est pas un détail et on n'est pas encore à ce 1,5 degré.
Mais comment ça se fait ce que vous dites, ça fait des années que c'est répété.
Alors, effectivement,
est-ce que l'opinion publique change ? Les dirigeants,
oui, mais on le voit dans les études d'opinion, la préoccupation pour le climat, elle reste importante. Ouais. D'autres préoccupations montées, attisées par certains partis sur l'insécurité ou sur l'immigration, mais la préoccupation pour le climat, elle reste importante, ou parfois elle est remplacée par une préoccupation pour les catastrophes naturelles. Parce que comment on perçoit maintenant le climat ? En fait, maintenant, c'est très concret. On le voit près de chez nous, encore récemment, les inondations en Argentine, les scientifiques ont montré que l'intensité des pluies supplémentaires était bien liée au changement climatique et donc liée à l'impact humain. En fait, ce qui m'inquiète le plus aux États-Unis, c'est le fait qu'il y ait une censure sur l'information. Sous prétexte de liberté d'expression, en fait, on va censurer, on va interdire des mots. Le mot changement climatique n'est plus sur la page de la Maison Blanche. Il n'y aura plus de financement pour des chercheurs s'ils disent qu'ils veulent faire de la recherche sur le climat. Les chercheurs américains ont interdiction d'aller à des réunions du GIEC, donc ce groupement international de scientifiques sur le climat. Et finalement, la désinformation prend une puissance énorme et c'est ça qui m'inquiète le plus, parce que si on veut agir, il faut qu'il y ait une connaissance partagée, il faut que les scientifiques puissent s'exprimer et qu'ils puissent être écoutés par les politiques. Et si les politiques n'écoutent plus les scientifiques, on va effectivement dans un régime complètement totalitaire.
La désinformation, elle met plus à mal l'environnement, selon vous, que les mesures à proprement dites prise par Donald Trump ?
Disons qu'elles permettent la prise de ces mesures. Si on bâillonne complètement les scientifiques, alors on peut prendre n'importe quelle mesure et on ne sait plus sur quoi elle s'appuie. Et donc ça légitime effectivement des mesures qu'il a prises, hein, comme par exemple de relancer les fossiles. On verra les résultats parce qu'à court terme, on ne voit pas encore les résultats. De freiner les projets d'éolien en mer ou de relancer l'extractivisme en Alaska. Ce sont des projets, effectivement, ou freiner également le développement du véhicule électrique. Alors, il revient un petit peu en arrière, puisque récemment, il est devenu le VRP de Tesla, vantant les différents modèles de véhicules Tesla avec les prix, etc., et montrant que c'était les meilleurs véhicules américains. Mais il a eu tout un discours auparavant qui était plutôt un frein aux véhicules électriques. En fait, voilà, il suit un peu un discours très populiste qui s'appuie sur certaines colères ou certains doutes. Et il ne cherche absolument pas à suivre la parole scientifique et il va même la bâillonner complètement.
Lucille Schmitt, est-ce qu'on peut, alors c'est une question, je demandais au maximum pédago, mais est-ce qu'on peut évaluer à quel point le mandat de Donald Trump peut menacer la transition écologique quasiment quotidiennement? Il y a des reculades sur la question du climat hier. Une série de mesures qui avait été prise sous Joe Biden visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des voitures et des centrales à charbon qui a été annulée. Le patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement a dit que c'était la journée de déréglementation la plus importante de l'histoire des États-Unis. Ça, c'était simplement hier. Précédemment, il y a eu le retrait de l'accord de Paris, il y a eu le décret en faveur des énergies fossiles.
Il y a plusieurs choses par rapport aux États-Unis. D'abord, je crois qu'il faut rappeler que sur la question des savoirs, de la recherche, les chercheurs américains, comme les chercheurs russes d'ailleurs, ont été ceux qui ont le plus tôt montré qu'il y aurait des dérèglements climatiques, dès les années 1950. Donc la force de la recherche et des savoirs aux États-Unis, c'est une réalité. Et déjà, lors du premier mandat de Donald Trump, un certain nombre de chercheurs américains avaient quitté les États-Unis. Et on peut penser que ça pourrait s'accroître. Et en tout cas, que, comme vient de le dire Anne Bringot, ils sont bâillonnés, les obstacles sont multipliés sur le plan financier, sur les lieux même, puisque vous savez qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont licenciés, en fait, du jour au lendemain. Donc il y a un enjeu sur la question des savoirs, de la recherche et du fonctionnement de la recherche à l'échelle internationale autour du GIEC.
Mais recherches, parce qu'effectivement, Anne Bringot en a parlé, Lucille Schmitt en a parlé. Ce sera l'objet d'un débat mardi.
Pardon,
je tiens à dire, est-ce que la recherche est menacée? Non, mais pour savoir, est-ce que, je ne fais pas la pub pour le débat, c'est dit au passage, et surtout à quel point est-ce que c'est un élément clé de la transition écologique?
Oui, c'est un élément clé parce que je crois qu'il faut rappeler une chose, c'est que les enjeux écologiques sont au carrefour de plusieurs angles. On a toujours parlé d'écologie au sens scientifique, on en parle aussi au sens démocratique. Et là, on voit bien que dans les enjeux de pouvoir, on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est ce qu'a pensé Joe Biden, être une puissance écologique, c'est quelque chose qui permet à une nation de peser au niveau international. Donc, les enjeux de savoir, les enjeux de science, les enjeux de recherche, ils ont évidemment une répercussion immédiate sur la manière dont on conçoit l'industrie, dont on fait fonctionner l'économie, dont on fait évoluer l'économie, d'une croissance qui n'a rien de vert à une croissance qui soit plus verte. Alors on peut contester le terme de croissance, mais en tout cas, le modèle de la transition énergétique et écologique, puisque c'est ça le sujet de l'émission, ça va évidemment se faire avec de la recherche qui va déboucher sur de la recherche appliquée et d'autres manières de faire. Donc ça, c'est un point essentiel. La deuxième chose, c'est la question du discours. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les discours politiques, notamment du président des États-Unis, peuvent avoir un caractère performatif. C'est-à-dire qu'il y a un côté où s'il dit ça, pourquoi ça serait pas vrai? Pourquoi ça nous permettrait surtout de pas nous dire on n'a pas besoin de changer? Parce que dans le discours de Donald Trump, il vous dit continuez comme avant, même foncez, faites le pire, c'est-à-dire soyez anti-climatique, soyez écolo plus que sceptique, luttez contre l'écologie et vous serez beaucoup plus puissant. Donc là, il y a quelque chose qui détruit, qui détricote la manière dont on a pu installer les enjeux de transition écologique au sein des opinions publiques. Et ça, c'est un point essentiel parce que il y a toujours eu un flottement autour du discours sur la transition écologique. Même avant que l'extrême droite ait des scores aussi élevés qu'aujourd'hui, il y avait cette espèce de pas de deux. C'est-à-dire que, par exemple, dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, on peut trouver des choses qu'on dirait positives sur la Convention citoyenne pour le climat, l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Et puis ensuite, il y avait un truc qui aboutissait au contraire. Et là, on est dans une situation où, d'une certaine manière, on vous dit « Allez-y, foncez contre l'écologie et tout se passera bien. » Moi, ce qui me frappe, c'est que du côté européen, on soit incapable, au fond, de prendre pour l'instant le contre-pied de Donald Trump sur ce sujet-là, alors que sur d'autres questions, par exemple sur l'OTAN, sur la guerre, on y va sur le contre-pied. Alors, je crois qu'on peut espérer que dans une deuxième étape, on prendra un contre-pied, j'espère, par rapport à Donald Trump sur ces sujets, mais pour l'instant, rien n'est acquis. Et je crois que la question de l'extrême droite n'explique pas tout. Je crois encore une fois qu'il y a une manière de faire lorsqu'on est au pouvoir, qui est au fond de reproduire ce qu'on a toujours fait, et que l'écologie oblige à changer profondément et à avoir vis-à-vis de la société une relation plus active, à dire que les choses sont compliquées, à mettre en place de l'équité sociale. Et ça, c'est une chose que les gouvernements, y compris les gouvernements européens, ne savent pas très bien faire.
On va parler de l'Europe dans quelques instants avec Hervé Kempf, mais pour synthétiser votre propos, est-ce que vous diriez que l'écologie aujourd'hui, elle est confrontée à une double peine à long terme, la recherche qui est menacée, l'idéologie renforcée anti-écologie, évidemment on le voit aux États-Unis, mais vous avez évoqué aussi l'exemple français, et à plus court terme par les décisions que j'ai évoquées qui ont été prises par l'administration Trump.
Je crois qu'il y a un sujet sur le court terme qui est que la question agricole a été une sorte de déclencheur en fait d'un mouvement anti-écolo, anti-environnemental, et que je crois qu'il faudrait parce que comme si les agriculteurs représentaient l'ensemble de l'opinion publique, comme si les agriculteurs n'étaient pas eux-mêmes dans une situation compliquée. Donc le sujet aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une double peine, c'est la relation entre les gouvernements et les sociétés. Parce que les sociétés elles-mêmes ont besoin d'être convaincues, même si, comme l'a rappelé Anne Bringot, la préoccupation environnementale reste élevée par rapport à les enjeux, mais on ne sait pas comment faire.
Et il faut rappeler quand même que les agriculteurs, dans la crise agricole en France, en tout cas, leur première revendication, ce n'était pas des problèmes écologiques. Leur première préoccupation, c'était des problèmes de revenus, qui ne concernent d'ailleurs pas tous les agriculteurs. Certains sont beaucoup plus en difficulté que d'autres. C'est-à-dire ceux qui ont des élevages plus durables ont des revenus beaucoup plus bas que ceux qui ont des élevages industriels, alors que des élevages à l'herbe, etc., c'est beaucoup mieux du point de vue de l'environnement. Donc il y a aussi une question de où va l'argent, et le gouvernement a quand même bien joué le coup de mettre la faute de toute cette crise sur l'écologie alors que ce n'était pas le premier problème. Je voulais revenir quand même aussi sur la question européenne. Si les États-Unis essaient de relancer via Donald Trump l'exploitation des fossiles, parce qu'ils ont des fossiles, c'est quand même le premier producteur de gaz fossile et de pétrole dans le monde, on l'oublie souvent, en Europe on en a très peu de gaz fossile et de pétrole, et donc dans cette guerre commercial qui est en train de s'intensifier, l'intérêt de l'Europe, c'est bien de sortir le plus rapidement de cette dépendance aux énergies fossiles. Ça nous coûte des dizaines de milliards rien qu'en France chaque année.
C'est le premier client, l'Europe. Vous parlez de gaz naturel, c'est le fameux GNL, le gaz naturel liquéfié. Le premier producteur, ce sont les États-Unis, et le premier client, c'est l'Europe.
Tout à fait. Donc il y a vraiment
un enjeu. Et c'est extrêmement polluant.
Et il y a un enjeu extrêmement clé à sortir de ces énergies fossiles. Et donc, l'Europe devrait au contraire accélérer sa transition écologique pour retrouver une souveraineté énergétique, mais aussi industrielle. Et sur l'agriculture, on en parlait aussi, on est dépendant, par exemple, d'importations d'engrais qui sont produits dans d'autres pays de manière également très polluante et souvent venant aussi de Russie. Donc, on a un enjeu à redévelopper notre industrie et à avoir une industrie plus verte et une transition écologique, ça sera vraiment tout bénéfice pour l'Europe si on rentre dans une guerre commerciale, parce que la guerre militaire, on en parle beaucoup, mais on l'imagine quand même difficilement à grande échelle. Par contre, la guerre commerciale, elle est en cours.
Mais l'Europe ne prend pas ce chemin-là du tout.
Alors, pour l'instant,
je voudrais donner la parole à Hervé Kempf sur ce point-là, directeur de la rédaction à Reporter, parce qu'il y a eu, il y a quelques jours, cette présentation de la directive Omnibus qui vise à simplifier les normes. C'est très dans l'air du temps, la simplification des normes en matière écologie, mais est-ce que ça menace pas la transition écologique? C'est la question qu'on pose ce soir, c'est est-ce qu'on peut encore parler de la transition écologique? D'où ma question, Hervé Kempf, est-ce que l'Europe est encore à la pointe en matière de climat aujourd'hui dans le monde?
Non, mais je dirais non, elle n'est pas à la pointe, elle est à la remorque, mais c'est un choix d'une certaine manière assumé. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire il y a le méchant États-Unis et le méchant Trump et la gentille Europe qui n'arrive pas à faire de choix. Une fois de plus, nous sommes dans un mouvement historique d'ampleur dans tous les pays occidentaux qui se traduit par une fascisation ou une extrême droitisation de la politique qui est totalement assumée par les classes dirigeantes de tous les pays, avec hélas peu de nuances, mais on est dans cette situation. La deuxième chose, c'est que ce mouvement se traduit par une radicalisation du capitalisme, parce qu'il faut l'appeler par son nom au bout d'un moment. C'est le système économique est profondément inégalitaire et productiviste dans lequel on est, et le choix a été fait, et Monsieur Musk, de ce point de vue-là, est très représentatif du choix qui a été fait, c'est d'aller dans la direction de l'extrême droite, de l'autoritarisme, pour faire face, y compris
à la question écologique. La deuxième chose, c'est non, je crois aussi qu'il faut, le terme de transition écologique est devenu beaucoup trop faible, beaucoup trop inopérant, puisque ça fait 10 ans qu'on parle de transition écologique et elle se fait en fait quasiment pas. Elle se fait un petit peu dans le domaine énergétique avec la poussée du solaire et de l'éolien, d'ailleurs beaucoup sous l'influence de la Chine et en partie des États-Unis, mais en matière de biodiversité, en matière de pollution des écosystèmes, on est dans une aggravation de tous les paramètres qui est absolument effrayante. Je suis obligé d'employer ce mot. Et juste pour dire, l'enjeu, c'est pas est-ce que l'écologie, on va en faire plus ou moins, c'est de rappeler quand même en permanence que l'enjeu, c'est de changer du mode de fonctionnement de l'économie et de mode de vie dans les pays riches. Sinon, l'aggravation de la situation écologique globale va se traduire par une dégradation des conditions d'existence dans tous les pays. Et au passage, puisqu'après tout, on est sur RFI, et je crois qu'il y a beaucoup d'auditrices africaines et d'auditeurs africains ou d'Amérique latine qui nous écoute, il ne faut peut-être pas être trop européen, mais rappeler que la question, c'est le maintien d'un mode de vie très dispens, très gaspilleur dans les pays riches, très productiviste, qui reste aussi très largement colonialiste, et que les choix qui sont faits dans les pays du Nord entraînent l'ensemble de la planète dans une voie extrêmement dangereuse, et qui va se traduire par un appauvrissement généralisé, par des guerres, etc. Donc l'enjeu, il est vraiment là, hélas.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Peut-on encore parler de transition écologique? La question qu'on pose ce soir, évidemment, alors que l'écologie est mise à mal par toutes les décisions prises, que ce soit en Europe, mais évidemment en premier lieu aux États-Unis, depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Mes trois invités, Hervé Kempf, que l'on entendait, qui est directeur de la rédaction de Reporter, le média de l'écologie, Anne Bringo, directrice des programmes au réseau Action Climat, et Lucille Schmitt, essayiste, cofondatrice du think tank La fabrique écologique. Lucille Schmitt, est-ce que vous partagez le pessimisme, ou peut-être la réalité, d'Hervé Kempf? Finalement, il dit que ça fait quand même très longtemps qu'on parle de transition écologique et qu'elle n'en voit pas le jour.
Je pense qu'Hervé Kempf a vraiment raison de rappeler que nous sommes face à un sujet qui est planétaire et que la manière dont nous avons tendance à regarder notre nombril est un problème. C'est-à-dire que tout à l'heure, Anne Bringo rappelait aussi qu'entre 1,5 degré de réchauffement et 2 degrés, ça signifiait une différence très importante, par exemple pour les États iliens du Pacifique, la submersion, etc. Et parfois, on aimerait que nos gouvernements se transportent dans les îles Tuvalu et ne restent pas à l'Élysée. C'est-à-dire que je crois que l'endroit où l'on vit, la façon dont on est protégé de la réalité, joue un rôle essentiel aujourd'hui dans les décisions, plutôt l'absence de décisions qui sont prises sur les questions écologiques. Après, je trouve que dans le pessimisme d'Hervé Kempf, qui est le sentiment qu'au fond, le fascisme est en train de gagner, de gangrener, je crois que certainement, il y a une montée en puissance de l'extrême droite, et que ce qui est important à rappeler, c'est que l'extrême droite trouve la voie du vote. C'est-à-dire que lorsqu'il y a 11 millions d'électeurs en France qui votent pour le Rassemblement national, c'est pas anodin, mais c'est pas, et ça ne signifie pas qu'il faut être pétrifié, c'est-à-dire que personne n'est propriétaire de ses votes, mais ça signifie certainement que dans la manière dont nous avons de parler d'écologie, il faut trouver, je ne sais pas si c'est un autre langage, si c'est d'autres mesures, mais une manière d'articuler les enjeux écologiques qui sont des enjeux planétaires à une écologie du quotidien, et donc retrouver la capacité à dire des choses qui expliquent pourquoi, sans écologie, au fond, la vie ira plus mal.
Sachant qu'on a compris que la fracture, finalement, elle est du côté des dirigeants et pas tant avec l'opinion publique. Vous l'avez rappelé, Anne Bringo, même si près de 2/3 des Français, puisqu'on parle des Français là, en l'occurrence, sont pessimistes sur la possibilité de limiter le changement climatique d'ici à la fin du siècle. Ça pose la question de la transition écologique. Je voudrais distribuer la parole, parce que le temps tourne, Anne Bringo, et je voudrais qu'on continue à parler de l'Europe. Parce que on vous y avait fait référence, Hervé Kempf aussi, l'Europe qui, avec son pacte vert, était effectivement à la pointe. Alors j'ai demandé à Hervé Kempf si l'Europe est toujours à la pointe. Il dit non, elle est plutôt derrière. Mais alors qui est à la pointe de la lutte pour le climat aujourd'hui dans le monde si c'est plus l'Europe? Sachant qu'en plus, et à quel point ça va plomber l'Europe, il y a ces dépenses inédites en matière de défense qui sont annoncées. bah, est-ce que ça ne va pas être encore moins de dépenses pour l'environnement ?
Alors clairement, l'Europe était quand même à la pointe avec son pacte vert. C'était un objectif, enfin, il y avait des objectifs qui étaient très ambitieux et des moyens financiers conséquents. Maintenant, c'est vrai que ce pacte vert, bah, il est remis en cause et qu'il y a beaucoup de recul. Et c'est là où Hervé Kempf a raison, que voilà, ça pose clairement des questions. Et il va falloir que l'Europe se positionne et dise, est-ce que finalement, elle a envie de développer, d'accélérer cette transformation qui, effectivement, bah, elle est freinée par tous les acteurs économiques qui ont, pas, qui ont des intérêts dans les activités économiques actuelles et qui n'ont pas d'intérêt à ce que cette transformation se fasse de manière accélérée. Donc, est-ce que l'Europe va quand même faire ce choix de faire cette transition accélérée ? Et on le verra sur les objectifs qui vont être déterminés pour 2040.
Mais pourquoi elle le ferait si elle ne l'a pas fait avant ? Alors, elle le ferait maintenant, alors que justement l'effort budgétaire, il est encore plus important ailleurs.
En fait, elle le faisait, elle a pour l'instant pas complètement décidé de pas le faire. C'est-à-dire qu'elle est dans cette phase où elle n'a pas fixé ses objectifs pour 2040, donc il y a des signaux de recul sur des mesures très concrètes, mais le cap pour l'instant n'a pas changé. Donc on verra si le cap va changer. Et effectivement, l'argent qui va être mis sur la défense, eh ben, il ne faut pas qu'il soit en contrepartie de l'argent qui était prévu pour la transition écologique. On voit bien qu'il y a des intérêts financiers conséquents, notamment en France. En France, l'armement, c'est 18 milliards d'exportation par an. Donc c'est énorme et on comprend aussi parfois l'intérêt de certains discours de dirigeants français à pousser pour des budgets supplémentaires pour la défense au niveau européen en privilégiant des achats européens parce que ça va favoriser l'industrie française. N'oublions pas quand même que si on ne fait pas cette transition écologique, on va aller vers un monde où il y aura beaucoup plus de faim, beaucoup plus de personnes qui souffriront de difficultés d'accès à l'eau, beaucoup plus de populations déplacées en masse, et tout ça, ce sera la source de conflits massifs. On ne veut pas aller vers ce monde à plus de degrés, voire au-delà, et donc, effectivement, regardons ce que l'on peut faire, et regardons aussi en quoi c'est positif. On peut créer des emplois, il y a déjà énormément d'emplois qui ont été créés en Europe sur des activités dont les énergies renouvelables, l'agriculture biologique, la rénovation des bâtiments. On ne peut pas supprimer maintenant ces emplois parce qu'on change tout à coup d'avis. Il faut garder ce cap et l'Europe a un rôle à jouer. L'accord de Paris, pour l'instant, il n'est pas mort. Les États-Unis sont sortis. Certains me disaient qu'il va y avoir voilà, un effet domino. Pour l'instant, aucun autre pays, même l'Argentine, personne n'a indiqué sortir de l'accord de Paris. Donc la COP 30 qui va se dérouler au Brésil, elle va être extrêmement importante pour avoir vraiment carte sur table des différents États. Et là, l'Europe est attendue vraiment de pied ferme. Et nous, en tant qu'ONG, on sera extrêmement mobilisés sur ce point-là.
Hervé Kempf, est-ce que la transition écologique, elle va être définitivement enterrée sur l'autel des dépenses de défense, selon vous ?
C'est clair que là, il y a un tel engouement. Le mot, je le retire. Mais pour aller vite, en gros, oui, c'est malheureusement ce qui est en train de se faire. Après, une fois de plus, je voudrais revenir sur un point. C'est pas que je suis pessimiste, c'est que j'essaie d'être lucide. Et moi, j'en suis désolé, mais l'Europe, et je le regrette parce que Anne Bringot avait raison, historiquement, depuis une vingtaine d'années, la Commission européenne et les pays européens étaient dans une logique plutôt d'aller vers ce qu'on appelle la transition écologique. Mais clairement, maintenant, il y a un recul énorme.
Il nous reste 30 secondes.
30 secondes. Eh bien, oui, c'est là. Et pour reprendre les derniers mots d'Anne Bringot, qui était très juste, pour éviter la guerre, au lieu d'aller vers des dépenses écologiques qui permettraient réellement de l'éviter, on va dépenser encore plus de dépenses militaires qui vont accroître le risque de guerre. Et je crois que fondamentalement, c'est un choix extrêmement dangereux pour l'avenir.
Et on a entendu vos inquiétudes, Hervé Kempf, aussi vos espoirs à Anne Bringot, et notamment du côté, à la fin du mois de novembre, du Brésil. Peut-être la transition écologique, elle sera entre les mains de cette COP30 qui se déroulera en novembre au Brésil. Merci beaucoup à vous trois. Lucille Schmitt, essayiste, cofondatrice du think tank La Fabrique écologique, Anne Bringot, directrice des programmes au réseau Action Climat, et Hervé Kempf, directeur de la rédaction de reporter. Et merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Claude Battista à la réalisation. Merci à la documentation de Radio France Internationale.
RFI.
Allez, coup d'œil à la pendule. Dans une minute, ce sera le grand journal du soir avec Adrien Delgrange. On ira notamment en Russie où Vladimir Poutine s'est exprimé, le président, ce jeudi. Et puis, dans une demi-heure, ce sera la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
On jette un coup d'œil au programme avec vous et à la une, la RDC, l'ouverture du procès de 5 généraux de l'armée et de la police.
Oui, ces 5 hauts gradés comparaissent devant la haute cour militaire à Kinshasa. Ils sont poursuivis notamment pour lâcheté, violation des consignes et perte de munitions. Procès ouvert ce jeudi en présence du ministre de la Justice qui a ordonné la mise en accusation de ces officiers. On parlera aussi du sommet de la SADC, la communauté d'Afrique australe. Sommet des chefs d'État en visioconférence consacré à l'avenir de la force militaire régionale déployée dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous reviendrons également sur la polémique autour du grand concert caritatif pour récolter des fonds au profit des enfants victimes du conflit dans l'est de la RDC.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Zéphirin Quadio. On vous retrouve dans 30 minutes. Pour l'heure, eh bien, c'est le grand journal du soir qui arrive dans 30 secondes avec Adrien Delgrange. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale.